Chapitre 4 Prince et princesse. Enfin, Gerda dut encore se reposer, car elle sentait que ses forces l'abandonnaient et que, si elle tentait d'aller plus avant, elle allait certainement tomber. Elle s'assit donc sur une grosse pierre. Juste en face de l'endroit où elle était assise, sautillait une corneille. Cette corneille la regarda longtemps et finit par dire
« Cra, cra, bjour, bjour !»
Elle ne savait pas mieux s'expliquer, la pauvre bête, mais il était évident qu'elle voulait du bien à la petite fille. Aussi, Gerda lui fit-elle un gentil signe de tête en lui répondant « Bonjour, corneille !» Alors, dans son langage toujours, la corneille lui demanda où elle allait et comment elle se trouvait ainsi seule. La petite Gerda lui raconta toute son histoire et finit par lui demander « Corneille, mon ami, n'as-tu pas vu le petit Peter ?» La corneille réfléchit longuement et dit
« Cela pourrait bien être, cela pourrait bien être !»
La petite Gerda prit la corneille et manqua l'étouffer en l'embrassant.
« je crois, cra !» fit la corneille. « Cela pourrait bien être, cra !»
Le petit Peters vit,
cra,
mais maintenant il doit avoir oublié pour la princesse.
« Cra, cra, cra !»
« Est-ce qu'il demeure chez une princesse ?» demanda Gerda.
« Oui, » répondit la corneille, « mais je parle mal ta langue. Est-ce que tu ne parles pas la mienne, toi ?»«
Non, je ne l'ai point apprise, » dit tristement la petite Gerda. Et cependant j'aurais pu, car ma grand-mère la savait.
« Cela ne fait rien, » répondit la corneille. « Je vais tâcher de parler de mon mieux. Écoute. »
La petite Gerda rassura la corneille, lui disant que, si mal qu'elle parla, elle comprendrait bien certainement, qu'elle pouvait donc commencer en toute tranquillité. Et la corneille lui raconta ainsi ce qu'elle savait. Dans le royaume où nous sommes à présent, demeure une princesse qui est incroyablement sage et savante. Mais il faut dire aussi qu'elle est abonnée à tous les journaux qui se publient dans le monde entier. Il est vrai qu'elle a tant d'esprit qu'elle les oublie aussitôt qu'elle les a lus. Elle monta sur le trône à l'âge de 18 ans, et quelque temps après, on lui entendit chanter une chanson qui commençait par ces mots « Il est temps de me marier ». Mais la fin de la chanson n'était pas si facile à dire que le commencement, car la princesse ne voulait pas seulement un prince comme il y en a beaucoup, c'est-à-dire qui sache bien porter un bel uniforme, sourire à propos et être toujours de son avis. Non, elle voulait un véritable prince, beau, brave, intelligent, qui pût encourager les arts pendant la paix, se mettre à la tête des armées en cas de guerre. Enfin, elle voulait un prince comme, en regardant sur tous les trônes de la terre, elle n'en voyait pas. Mais la princesse ne désespéra point de trouver ce qu'elle désirait, décidée qu'elle était à ne pas s'arrêter à la condition et de choisir, dans quelque rang qu'il fût, un époux digne d'elle. Elle fit venir le directeur général de la presse et les journaux parurent le lendemain, entourés d'une guirlande de roses, et annonçant qu'un concours était ouvert pour obtenir la main de la princesse, et que tout jeune homme de bonne mine, âgé de 20 à 25 ans, pouvait se présenter au château, causer avec la princesse, qui accorderait sa main à celui qui lui paraîtrait réunir le plus de qualités intellectuelles et morales. Tout cela n'était guère probable, et la petite Gerda paraissait douter de la véracité du récit de la corneille, lorsque celle-ci, mettant sa patte sur son cœur,
« Je vous jure, dit-elle, que je ne vous dis que la vérité, ayant appris tous ces détails par une corneille privée qui habite le palais et qui est ma fiancée. »
Du moment où la corneille était renseignée de si bonnes sources, il n'y avait plus à douter de ce qu'elle disait. Les jeunes gens à marier accoururent de tous les côtés du royaume. C'était une foule à ne pas s'y reconnaître, une presse à ne pouvoir passer par les rues. Et cependant, rien ne réussit, ni le premier ni le second jour. Tous parlaient bien et avec beaucoup d'éloquence, tant qu'ils n'étaient qu'à la porte du château. Mais une fois dans la cour, quand ils voyaient les gardes en uniforme d'argent, qu'après avoir monté les escaliers, ils voyaient les laquais en livrée d'or, qu'après avoir traversé les grandes salles illuminées, ils se voyaient droit devant le trône de la princesse. Oh, alors, ils avaient beau chercher, ils ne trouvaient autre chose à dire qu'à répéter le dernier mot de la phrase qu'elle avait prononcée, de sorte que la princesse n'avait pas besoin d'en entendre davantage et savait du premier coup à quoi s'en tenir sur eux. On eût dit que tous ces gens-là avaient pris un narcotique qui endormait leur esprit et qu'ils ne retrouvaient la parole qu'une fois hors du palais. Il est vrai qu'une fois là, elle leur revenait surabondamment. Tous parlaient à la fois, se répondant les uns aux autres ce qu'ils eussent dû répondre à la princesse, si bien que c'était un caquetage à ne pas s'entendre. Il y avait là toute une rangée de bourgeois imbéciles qui attendaient leur sortie et qui riaient de leur désappointement. J'y étais, et je riais avec eux de tout mon cœur. « Mais le petit Peter, mais le petit Peter !» demanda Gerda. « Tu ne me parles pas de lui ?»« Attendons, attendons !» dit la corneille. « Nous y viendrons, au petit Peter !» C'était le troisième jour. Voilà qu'il vint un petit bonhomme, sans voiture, sans cheval, tout joyeux. Il marcha droit au château, ses yeux brillaient comme les tiens, il avait de beaux cheveux longs, mais d'ailleurs de pauvres habits. « C'était Peter, c'était Peter !» s'écria Gerda dans sa joie. « Oh, alors, je l'ai retrouvé !» Et, dans son contentement, oubliant sa fatigue, elle sautait et frappait des mains. « Il avait, continua la corneille, qui ne se laissait pas facilement couper la parole, un petit havresac sur le dos. « Vous ne me parlez pas de son traîneau ? Il devait avoir son traîneau, puisque c'est avec son traîneau qu'il est parti !»«
C'est possible, » reprit la corneille. « Peut-être était-ce son traîneau et non un havresac qu'il avait sur le dos. Je n'y ai pas regardé de si près. Mais voilà ce que je sais de ma fiancée, la corneille apprivoisée. »
Quand il passa la grande porte du château et qu'il vit les gardes tout en argent, quand il eut monté les escaliers et qu'il vit les laquais tout en or, il ne parut pas le moins du monde intimidé. Il fit un petit signe amical et dit
« C'est trop ennuyeux de rester sur l'escalier à attendre. Moi, j'entre. »
Et il entra dans les salles illuminées et, là où les conseillers de la princesse, tout vêtus d'habits brodés, allaient pieds nus pour ne pas faire de bruit, il alla avec ses souliers qui criaient tout haut, mais cela ne le démonta pas le moins du monde.
« C'était le petit Peter, c'était le petit Peter !» cria Gerda. « Je sais qu'il avait des souliers neufs. Je les ai entendus crier dans la chambre de la grand-mère. »
« Oui, vraiment, il criait, » reprit la corneille. Mais lui, sans s'en inquiéter, alla courageusement tout droit à la princesse, qui était assise sur une perle grosse comme la roue d'un rouet, et toutes les dames de la cour avec leurs dames d'atour, et les dames d'atour de leurs dames d'atour, et tous les seigneurs avec leurs serviteurs, et les serviteurs de leurs serviteurs, qui, à leur tour, avaient tous un petit laquais, étaient rangés dans la salle, et plus près ils étaient de la porte, plus ils avaient l'air fiers.
« Oh, que cela devait être bien imposant !» dit la petite Gerda. « Et cependant, dis-tu, Peter n'a pas été un seul instant déconcerté ?»«
Pas un instant, » dit la corneille. Il se mit à parler, à ce que m'a dit ma fiancée la corneille apprivoisée, dans la langue du pays, presque aussi bien que je le fais moi-même quand je parle dans ma langue de corneille.
« Ah, c'est bien là, mon cher petit Peter !» dit Gerda. « Il avait tant d'esprit. Il savait compter de tête, même avec fraction. Ne voudrais-tu pas me conduire au château, ma belle corneille ?»«
Oui, da, c'est bientôt dit, » répondit la corneille. « Mais comment arrangerons-nous cela ?»« Je vais en causer avec ma fiancée. Elle pourra nous donner un bon conseil, car il faut que je te dise qu'il n'y a pas d'exemple qu'une petite fille de ton âge soit entrée au château.
« Oh, si fait, si fait, j'y entrerai !»
répondit résolument la petite Gerda.
Dès que Peter saura que je suis là, il sortira et me fera entrer. « Attends-moi donc ici, » dit la corneille. « Je reviendrai le plus tôt que je pourrai. » Et elle secoua la tête et s'envola. Ce ne fut qu'assez tard dans la soirée que la corneille fut de retour. « Cra, 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 » fit-elle, « je te salue trois fois de la part de ma fiancée. Voici un petit pain que j'ai pris pour toi à la cuisine, car tu dois avoir faim. Il n'est pas possible que tu entres au château. Les gardes en argent et les laquais en or ne te laisseront jamais passer. Mais ne t'afflige pas, tu pourras monter dans les greniers, et une fois là, ma fiancée connaît un petit escalier dérobé qui conduit à la chambre à coucher, et elle sait où prendre la clé. Suis-moi donc. » La petite Gerda suivit la corneille, qui marchait en sautillant devant elle, et elles arrivèrent à la grille du parc. Les deux battants en étaient tenus par une chaîne. Mais comme la chaîne était un peu lâche et que Gerda était toute mignonne, elle put passer par l'entrebâillement. Quant à la corneille, elle passa entre les barreaux. Une fois dans le parc, elles prirent la grande allée où les feuilles commençaient à craquer sous les pieds. Arrivées au bout de l'allée, elles se cachèrent dans un massif et attendirent que les lumières du château s'éteignissent les unes après les autres. Lorsque la dernière fut éteinte, la corneille conduisit Gerda à une petite porte toute cachée dans les lierres. Il fallait voir comme le cœur de Gerda battait de crainte et de bonheur. On eût dit qu'elle allait faire quelque chose de mal, tant son émotion était grande. Et cependant, elle voulait seulement s'assurer si c'était bien le petit Peter qui était au château. Oui, ce devait être lui, et Gerda se le rappelait tel qu'il était, avec son charmant sourire et ses yeux intelligents, lorsque tous deux ils étaient assis sous les roses. Allait-il être joyeux de la revoir? Allait-il être content de l'entendre raconter tout le long chemin qu'elle venait de faire pour le retrouver? D'apprendre d'elle combien tout le monde au logis avait été affligé de ne pas le voir revenir? Elle en frissonnait d'une telle joie que l'on eût dit de la terreur. Elles étaient alors dans l'escalier, une petite lampe brûlait sur une armoire. Sur la première marche du palier se tenait la corneille apprivoisée, tournant la tête pour mieux voir Gerda, laquelle faisait à la corneille la révérence ainsi que sa grand-mère le lui avait enseigné. Enfin, la corneille prit la parole. « Ma chère demoiselle, dit-elle, mon fiancé m'a dit tant de bien de vous que je suis tout à votre dévotion. Veuillez prendre la lampe qui est sur l'armoire et je vous précéderai. Nous pouvons aller tout droit, je suis sûre ici de ne rencontrer personne. » « Et cependant, dit Gerda, on dirait que nous ne sommes pas seuls. Tenez, ne voyez-vous point passer des ombres sur la muraille? Voici des chevaux montés par des écuyers et des pages. Voici des piqueurs, des seigneurs et des dames à cheval. De l'autre côté, voyez comme c'est triste. Voici une belle jeune fille, vêtue tout de blanc, couronnée de roses blanches, couchée dans une bière, et autour d'elle des gens qui pleurent. Ce sont les rêves qui viennent prendre les pensées des hôtes endormis du château et qui les emportent vers les plaisirs ou la douleur. Tout est pour le mieux, car cela nous prouve que le sommeil est déjà entré, attendu que les rêves ne viennent qu'après lui. » Elles arrivèrent ainsi dans la première salle. Elle était tendue de satin rose avec des bouquets d'or et d'argent. Les salles, au fur et à mesure qu'elles approchaient, étaient de plus en plus magnifiques. C'était d'une richesse à éblouir les yeux. Enfin, elles entrèrent dans la chambre à coucher. Le dais du lit était figuré par un palmier au feuillage d'émeraude. À sa tige étaient suspendus deux lits, ayant chacun la forme d'un lys. L'un était blanc, et c'était celui de la princesse. L'autre était rouge, et c'était celui du prince. La petite Gerda monta sur l'estrade couverte de riches tapis par laquelle on y arrivait. En voyant une tête couverte de cheveux noirs bouclés, elle s'écria « Oh, c'est bien mon petit Peters !» Et elle appela « Peter, Peter !»
Le prince se réveilla et tourna la tête du côté de Gerda. Ce n'était point le petit Peter. Mais au même instant, du milieu du lys blanc, la princesse leva la tête et demanda ce que c'était. Alors la petite Gerda se prit à pleurer et, tout en pleurant, raconta son histoire avec tout ce que les deux corneilles avaient fait pour elle. « Pauvre petite !» dirent le prince et la princesse, et ils louèrent les deux corneilles de ce qu'elles avaient fait, disant qu'ils n'étaient point du tout fâchés, puisque cela leur valait la connaissance d'une si gentille petite fille. Mais cependant, elle ne devait pas recommencer dorénavant, de peur de ne pas si bien réussir. Du reste, on les récompenserait. « Voulez-vous votre liberté ?» demanda la princesse aux deux oiseaux. « Ou bien préférez-vous la place de conseiller de la couronne avec toute la desserte du palais pour appointement ?» Les deux corneilles s'inclinèrent en signe de remerciement, priant le prince et la princesse de leur accorder une position fixe, car elles songeaient à la vieillesse, ayant déjà le mâle 150 et la femelle 144 ans. Et ils se disaient « Si nous vivons 300 ans, c'est-à-dire l'âge des corneilles, il est bon d'avoir quelque chose d'assuré pour nos vieux jours. » Il fut donc convenu qu'à partir du lendemain, les deux corneilles entreraient au Conseil d'État. En attendant, comme on ne savait où coucher la petite Gerda, et comme le prince voulait lui céder son lit, la princesse lui fit une place à côté d'elle, lui souhaita une bonne nuit et l'embrassa. Elle ne pouvait faire davantage. Gerda joignit ses deux petites mains, fit sa prière et s'endormit en disant « Oh, que les hommes et les bêtes sont bons dans le vaste monde !» Alors, les rêves qui étaient entrés pour la petite Gerda vinrent se jouer autour du lit. Il tirait un traîneau dans lequel était assis le petit Peter qui lui faisait signe de la tête. Mais tout cela n'était qu'un rêve et par conséquent disparut quand elle s'éveilla. Le jour suivant, la princesse l'habilla de la tête aux pieds de velours et de soie. Elle voulut lui mettre aux pieds de charmantes petites pantoufles de drap d'or avec des fleurs cerises. Mais Gerda dit qu'elle avait fait vœu d'user ses souliers rouges à la poursuite de Peter et qu'elle ne pouvait manquer à son vœu. La princesse voulait la nommer demoiselle d'honneur et lui donner une belle chambre à coucher au château. Mais elle refusa, priant qu'on lui donnât seulement une petite voiture avec un petit cheval, car elle voulait se remettre immédiatement à la recherche de son ami Peter. Comme elle voulait partir sans retard, la princesse donna des ordres et l'on vit s'arrêter à la porte un petit carrosse doré attelé de deux chevaux avec un postillon à la domon. Les armes du prince et de la princesse brillaient sur les panneaux comme deux étoiles. Le prince et la princesse mirent eux-mêmes la petite Gerda en voiture, lui souhaitant toutes sortes de bonheur. La corneille des bois, qui le matin même s'était mariée avec sa fiancée, l'accompagna pendant les trois premiers milles. Elle était assise à ses côtés, ne pouvant supporter d'aller en arrière. Quant à l'autre corneille, elle était restée battant des ailes sur la porte du palais. Elle n'accompagna ni la petite Gerda ni son mari, disant qu'elle avait une forte migraine, ce qui lui venait de ce qu'elle mangeait trop depuis qu'elle avait une position fixe. Les corneilles, et même les corbeaux qui les avaient connus autrefois, prétendaient, non sans raison, que les honneurs leur avaient tourné la tête. L'intérieur du carrosse était bourré de sucreries, et dans la caisse du siège, il y avait des fruits et des croquignoles. « Adieu et bon voyage !» crièrent le prince et la princesse en essuyant chacun une larme. La petite Gerda pleurait aussi, et il n'y avait pas jusqu'à la corneille qui ne bâillât de toute la largeur de son bec, ayant le cœur serré. Ils firent ainsi les premiers milles, alors la corneille dit adieu à son tour, et cet adieu fut pour la petite Gerda le plus pénible de tous. Quant à la corneille, elle vola tout à la cime de l'arbre le plus élevé, et là, battit des ailes tant qu'elle put voir le carrosse qui brillait aux rayons du soleil.